Les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission dans laquelle l'emploi, secteur clé de la relance de l'économie, sera au cœur de nos débats. Quels sont les dispositifs existants? Quelles sont les marges de manœuvre pour continuer à soutenir l'emploi salarié? Nous allons en parler avec nos deux invités, Naya Wateu, qui est membre du gouvernement en charge du travail, de l'emploi, de la fonction publique et du handicap, et Julien Barras, qui est président de la commission emploi-formation du MEDEF. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je signale que Tony Dupré, le vice-président de la COGETRA, devait être sur ce plateau, mais qu'un empêchement de dernière minute l'a contraint à ne pas malheureusement assister à cette émission. On va donc faire le point sur l'emploi et surtout les dispositifs d'accompagnement et de maintien dans l'emploi, parce qu'on sait bien que c'est une préoccupation aujourd'hui des institutions. Naya Wateu, peut-être en commençant par dresser un état des lieux, parce que les chiffres ont beaucoup bougé ces derniers mois, ces dernières semaines. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait où en est l'emploi salarié et combien de personnes aujourd'hui ont perdu leur emploi ?
Oui, comme vous l'avez très justement dit, aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des données au jour le jour. Mais en tout cas, les grandes masses, elles sont là. Et oui, elles sont inquiétantes et elles marquent à quel point cette situation des exactions de mai 2024 a pu avoir un impact considérable à la fois sur le quotidien des Calédoniennes et des Calédoniens, mais également sur la vie des entreprises et aujourd'hui sur le tissu économique. Et puis surtout, c'est les conséquences. Parce que 2026, on en paye encore les conséquences et les choses ne vont pas s'arranger de sitôt. Mais sur les premiers chiffres qu'on peut avoir et pour ce qui relève notamment de l'emploi, on est quand même sur, entre 2023 et 2025, plus de 13 400 personnes qui ont perdu leur emploi. C'est 15% de la main-d'œuvre qui aujourd'hui nous fait défaut. Un autre chiffre qui pour moi est important aussi, parce qu'on focalise beaucoup et à juste titre sur les salariés, mais un salarié sans un chef d'entreprise au-dessus, c'est pas forcément comme ça que se tient l'équilibre. Et on est à plus de 1600 chefs d'entreprise qui ont perdu leur activité. Ça veut dire tout un tissu économique qui s'est retrouvé du jour au lendemain en perdition. Et puis derrière, cette nécessité quand même pour le gouvernement, pour l'ensemble des collectivités et des institutions, à pouvoir essayer de rebondir, pouvoir permettre que la situation, au-delà de se stabiliser, parce que le faire du jour au lendemain, c'était pas possible, mais qu'en tout cas, les mesures qu'on est en capacité de prendre puissent s'opérer et qu'on ait un peu moins cette situation catastrophique qui s'impose à tous.
Voilà, parce qu'on va en parler dans la suite de cette émission, en revenant sur les dispositifs qui ont existé ou qui existent encore. La difficulté, c'est qu'il faut être dans un ajustement permanent.
Oui,
par rapport à l'évolution des chiffres et aux besoins des entreprises et des salariés.
C'est un ajustement permanent et c'est là où c'est vrai que la difficulté peut se retrouver entre le temps réglementaire et législatif, qui est celui de mettre en œuvre des mesures, même si durant cette période, il y a eu quand même une volonté de la part des différentes forces politiques de faire en sorte que les choses puissent s'opérer dans les conditions les plus rapides. Mais effectivement, le temps de mise en œuvre n'était pas celui d'une entreprise qui avait besoin d'avoir une réponse immédiate. Donc il a fallu se caler, s'ajuster. C'est là aussi où je voudrais saluer le travail qui a été fait, c'est-à-dire qu'au-delà des mesures réglementaires, l'objectif, ça a aussi été de maintenir cette forme de ce dialogue social entre les entreprises, entre les syndicats, entre les collectivités, les institutions, pour d'une seule voix faire en sorte que la situation ne se détériore pas plus.
Alors Julien Barras, vous êtes président de la commission emploi-formation du MEDEF, je le disais en ouverture de cette émission, 13 400 emplois détruits, c'est une augmentation de 15% du taux de chômage, ce qui est énorme. Aujourd'hui, quels sont les secteurs dans lesquels cette situation se fait le plus ressentir? Est-ce que le MEDEF sait à peu près quels sont les secteurs les plus touchés par cette brutale chute de l'emploi?
Alors, c'est vrai que tous les secteurs sont touchés. Les plus marqués, c'est l'industrie et la construction, donc le bâtiment de travaux publics, où on a le plus grand nombre de pertes d'emplois, de pertes d'entreprises, donc de chefs d'entreprise.
Qui ferment leur entreprise. Hein.
Qui ont fermé leurs entreprises ou qui ont abandonné leurs patentes, qui sont passées sur d'autres... qui sont partis. Après, inévitablement, les emplois secondaires qui découlent, le commerce, les services, effectivement, qui sont répercutés avec un petit peu plus de latence. Mais effectivement, l'emploi est le miroir de l'économie. Donc quand l'économie va mal, l'emploi est le premier touché. Ouais.
Et on rappelle que ça a des conséquences en cascade, notamment pour les régimes sociaux, parce que ce sont des imbrications très complexes, mais un salarié c'est aussi un système qui fonctionne moins bien au niveau social en Calédonie, Nadia Wateu.
Oui, on a un système qui est celui aussi d'une forme de tissage et de rouage. Et effectivement, un salarié qui perd son emploi, c'est au-delà déjà de la dimension du fait qu'on a une perte dans le tissu économique, puisque et sur la partie sociale, parce que c'est une personne qui va se retrouver forcément avec des difficultés derrière, voilà. À pouvoir payer son loyer. Le salaire, c'est la dignité, faut jamais l'oublier. Mais effectivement, pour une entreprise qui n'est plus en capacité de pouvoir répondre à ses impératifs, derrière, c'est autant de cotisations qui ne rentrent pas, autant d'impôts qui ne rentrent pas, et ces impôts-là et ces cotisations-là, c'est elles qui viennent maintenir un régime de santé, un régime de protection sociale, et qui fait fonctionner finalement toute une économie et tout un pays.
Alors quelles sont les aides qui existent aujourd'hui ? Parce qu'on va quand même rappeler que la situation de l'emploi salarié, puisque c'est bien ça qui est au cœur aujourd'hui de notre émission, a fortement été dégradée après les émeutes. On a parlé au moment des émeutes de 11 000 emplois détruits. Là, vous avez dit 13 400 oui. depuis 2023, parce qu'on rappelle qu'avant, il y a eu aussi des crises sanitaires qui avaient déjà généré des aides à l'emploi. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Nadia Wateu ? Quels sont les dispositifs qui existent encore ? Quels sont ceux qui ont été supprimés ?
Oui, c'est vrai qu'on, et à très juste titre, on les cumule un peu, les crises. Et donc, il a fallu aussi s'adapter, et ça a été tout le challenge à un moment donné pour pouvoir faire en sorte que les dispositifs d'accompagnement qu'on pouvait avoir, notamment dans le cadre de la crise Covid, puissent à un moment donné pouvoir se mettre en place aussi et répondre à des critères qui étaient ceux d'entreprises impactées par la crise mai 2024, au-delà des dispositifs qui existent déjà, que ce soit le chômage de droit commun, le chômage partiel. C'est vrai que très vite...
C'est ça qu'ils sont, d'une certaine façon, permanents. Hein.
Oui, voilà. Ils sont permanents. Ils sont permanents, mais ils sont aussi fragilisés.
Oui.
Forcément, à partir du moment où, comme on l'a dit tout à l'heure, l'économie va mal, c'est autant de cotisations, autant de répartition de richesses qui s'impactent sur ces régimes. Donc ça a été aussi tout le challenge, c'est de faire en sorte de maintenir ces dispositifs d'accompagnement type chômage de droit commun, chômage partiel, mais au-delà de ça, d'avoir des mesures qui viennent freiner la descente vertigineuse qu'on pouvait avoir. Donc ça a été les premières mesures avec l'allocation au maintien exceptionnel de l'emploi, dont on reviendra par la suite, des mesures d'urgence, et puis derrière aussi de pouvoir les adapter avec, parce qu'on avait aussi besoin d'avoir un petit peu d'optimisme aussi, mais tout ce qui était retour à l'embauche très, très rapidement. Donc à la fois contenir la chute vertigineuse qu'on pouvait avoir sur des situations d'extrême au niveau des entreprises, et encore une fois de faire en sorte que la crise soit moins compliquée. C'est toujours un peu moins compliqué de maintenir de l'emploi que de perdre de la ressource et d'avoir ensuite des personnes qu'il faut pouvoir recaser dans d'autres emplois. Pour les entreprises, c'est aussi une défaillance, parce que ça veut dire à chaque fois devoir reformer quand c'est possible et quand les personnes ne sont présentes. Ça a été tout l'enjeu. Ces dispositifs, quand même, entre PGE, parce qu'on a quand même eu l'accompagnement de l'État aussi, il faut le dire, il faut le rappeler, ça a été essentiel. Tous ces dispositifs, c'est pas moins de 24 milliards qui ont été injectés à la fois par l'État sur les mesures et l'accompagnement du gouvernement dans le cadre de son exercice budgétaire, 24 milliards pour sauver et préserver l'emploi.
Alors des dispositifs aujourd'hui, il n'y a quasiment plus que l'AME, hein, l'aide au maintien de l'emploi qui existe, on va y revenir dans un instant. Oui. Il y a eu beaucoup de choses, Julien Barras, on l'a rappelé, il y a eu la crise Covid, hein, il y avait déjà un certain nombre de dispositifs. Est-ce que ça a été compliqué pour les chefs d'entreprise, parce qu'eux, ils sont forcément confrontés à ces situations-là? Ils doivent connaître les dispositifs, voir s'ils les appliquent, voir s'ils les utilisent, voir si finalement il vaut mieux qu'ils continuent sans. Enfin, est-ce que ça a été aussi compliqué pour un chef d'entreprise d'avoir à se retrouver dans ce maquis de dispositions temporaires, forcément utiles, mais un peu compliquées à gérer ?
Oui, c'est jamais facile pour le chef d'entreprise, qui est souvent seul à décider. La première difficulté, c'est la visibilité. Donc effectivement, lui, il doit estimer sa visibilité économique. Et quand il a des fois des visibilités, on l'a dit, mais c'est, on le comprend, des aides qu'il pourrait avoir pour maintenir l'emploi, des fois les décisions sont difficiles à prendre. Toutes ces crises, effectivement, depuis maintenant 6 ans, mais je pense que c'est le monde moderne, malheureusement, font qu'on a de moins en moins de visibilité, le monde est moins en moins tranquille. ici et là-bas. Et donc, du coup, effectivement, c'est de plus en plus dur de prendre des décisions. Concernant le dispositif d'aide à l'emploi, il est essentiel, ça a été très bien dit, une des premières ressources d'une entreprise, certes, c'est ses machines, ses outils, mais qui les fait marcher, c'est ses employés. Et la formation, prendre une nouvelle personne, même si elle est du milieu, même si elle n'a plus travaillé chez un concurrent, c'est toujours un risque, un risque important pour l'employeur. Le meilleur employé pour un employeur, c'est celui qui connaît. Même s'il n'est pas parfait, même s'il a ses... Voilà.
Avec un risque dont on parle souvent dans cette émission, c'est aussi la perte de compétences qui accompagne généralement les renouvellements de personnel.
C'est de la perte de compétences, c'est de l'intégration vis-à-vis de ses équipes, vis-à-vis de ses clients. Donc garder un salarié dans l'entreprise, c'est toujours la meilleure solution.
Alors, on va revenir un moment sur cette AME, cette aide au maintien à l'emploi, puisque c'est le seul dispositif exceptionnel existant aujourd'hui, Naya Watéou. Il devait prendre fin là dans les semaines qui viennent, et le gouvernement a annoncé l'autre jour une probable prolongation. On sait que parfois des amendements votés trop vite au Congrès, ça provoque quelques tensions. Donc il y a un prolongement probable parce qu'il reste de l'argent. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est d'où vient cet argent qui reste, sachant qu'on nous dit partout que les caisses sont vides à droite, à gauche. Donc d'où vient cet argent qui pourrait permettre de prolonger l'AME ?
Déjà, c'est effectivement, oui, de rappeler que cette aide exceptionnelle, elle naît de cette situation économique qui est sans précédent et qui, finalement, a aussi fait ses preuves de par sa réactivité et sa mise en œuvre durant l'année 2025. L'objectif, c'était d'éviter l'effondrement de l'emploi. Ça a été rappelé à très juste titre. On avait tout intérêt à faire en sorte que nos entreprises puissent conserver les employés dans le cadre d'une relance, parce que l'objectif, c'est aussi de travailler la relance économique à côté. L'AME, ça a concerné un peu plus de 4 000 personnes. 4 000 salariés qui ont pu continuer à avoir un salaire à la fin du mois, un peu plus de 290 entreprises qui ont pu continuer leur activité malgré les difficultés. Pourquoi aujourd'hui on arrive à pouvoir le financer ? Déjà parce que ça a été tout l'enjeu de pouvoir travailler le caractère un peu flexible des différents dispositifs qu'on avait en place. Et ça a été le cas sur un dispositif qu'on a voulu mettre en place qui était le fonds retour à l'emploi, qui finalement, on le voit avec le retour sur le terrain, est peut-être arrivé trop tôt. En tout cas, aujourd'hui, la préoccupation, c'est pas tant d'aller embaucher, c'est de garder ces employés en activité. Donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire en sorte d'avoir cet équilibre. C'était aussi tout l'intérêt d'avoir, et c'est pour ça que ça a pris un peu de temps sur la prolongation de ce dispositif, c'est de s'assurer qu'avec les transferts de fonds qu'on pouvait avoir entre le dispositif de droit commun sur la partie chômage, on ne vienne pas mettre en difficulté ce dispositif, mais aussi tous ceux qui sont déjà existants. Donc ça a été de travailler cette flexibilité. On est sur un dispositif aujourd'hui, s'il est reconduit, qui pourrait concerner un peu plus de 1700 salariés par mois, donc c'est non négligeable. Et des mesures qui se chiffrent en estimation entre 130 millions, 150 millions par mois. Donc il fallait, avant de pouvoir s'assurer de pouvoir le maintenir, qu'on soit en capacité de pouvoir le financer. Aujourd'hui, on dispose d'une enveloppe qui est de l'ordre d'1,5 milliard, avec les ajustements qu'il faudra faire au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est vraiment aussi de s'adapter. C'est pour ça que ce seront des aides qui vont continuer à être sur une tranche de 3 mois, pour voir aussi, avec un renouvellement, comment la situation s'opère. On attend tous aussi que la relance derrière puisse faciliter. La vraie réussite de ce dispositif, c'est quand on n'en aura plus besoin.
Donc cet argent, il va servir à prolonger le dispositif. Et vous parliez, on a bien compris, en fonction des capacités financières, de juillet 2026, hein, c'est-à-dire de 6 mois, quoi, en gros.
Oui, voilà. Oui. Oui, l'idée, c'est pas non plus de promettre ce qu'on n'est pas en capacité de faire. C'est pour ça qu'au 31 décembre, lorsque le texte arrive à son terme, il y a un premier passage en commission qui est présenté. On n'a pas encore les données à jour à ce moment-là. La décision des conseillers, à très juste titre, a été de dire, écoutez, on va attendre un peu. On a la possibilité de le représenter au travers d'un texte qui passe le 17 février prochain. Cet amendement qui est porté par le rapporteur du texte, qui est Gilles Brial, fera l'objet d'explications aussi pour pouvoir assurer les conseillers sur le fait que on ne vienne pas mettre en péril les autres dispositifs.
Alors j'imagine, Julien Barras, que cette éventualité possibilité d'un prolongement de l'AME est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Ceci dit, vous le rappeliez tout à l'heure, hein, les entreprises ont besoin de visibilité. Le mois de juillet, c'est demain, c'est même presque hier. Donc pour vous, il y a quand même toujours cette inquiétude de savoir comment les choses vont pouvoir se mettre en place sur le, au moins sur le moyen terme.
Oui, c'est important d'avoir de la visibilité, on l'a dit. Déjà, on avait cru comprendre qu'il y aurait eu peut-être une prolongation parce qu'il y avait une annonce fin décembre. Bon, ça n'a pas été acté d'effet par la suite, mais donc on attend effectivement très on accueille de manière très favorable cette nouvelle annonce et on espère que effectivement le 17 février ça sera acté. Et oui, on a besoin de visibilité parce que malheureusement, lorsque l'entreprise peut pas occuper ses salariés, ben, elle doit quand même les rémunérer et donc c'est des pertes sèches. Sauf qu'une entreprise qui perd de l'argent, au bout d'un moment, elle meurt. Et donc, le chef d'entreprise doit décider. Et à ce moment-là, il ne peut décider que soit en faisant un plan social ou, bref, d'autres actions. Mais ça aussi, ça prend du temps. Le temps de le mettre en place, etc., ça prend 4, 5, 6 mois. C'est long. Il faut discuter avec les partenaires sociaux. Voilà. Donc, c'est vrai que ces mesures-là, on les prend tous comme un parachute qu'on a besoin. On espère tous ne pas les utiliser. voilà, c'est pas évident. Néanmoins, on est obligé quand même de remettre notre voilure aussi au marché actuel. Mais cette aide n'est pas que pour ça, elle est aussi pour faire part de cette flexibilité, parce que le marché est quand même tendu. Il peut aussi accélérer comme il peut ralentir. Il fonctionne aussi par à-coup.
Aujourd'hui, les chefs d'entreprise que vous rencontrez ou avec lesquels vous travaillez, face à cette baisse d'activité, face aux difficultés aujourd'hui de maintenir un nombre d'emplois salariés qui permettrait de faire tourner l'entreprise normalement, est-ce qu'ils ont réadapté leur stratégie? Est-ce qu'ils ont adapté leur carnet de commandes? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ils sont obligés, même si c'est un petit peu excessif comme terme, de réinventer leur société en permanence et de s'ajuster en permanence?
Ah oui, oui. Tout le monde a réinventé sa société. Tout le monde a dû abandonner des parts de... Les parts de marché les plus faibles, on les a abandonnées. Du coup, on travaille peut-être plus en sous-traitance ou en partenariat avec d'autres entrepreneurs qui ont fait leur spécialité de ces abandons. On a été obligés. On a tous eu une baisse de chiffre d'affaires et il a fallu adapter sa structure en face.
La volonté des chefs d'entreprise, c'est toujours embaucher, évidemment, et de répondre évidemment aussi aux besoins du marché.
Je pense que le discours, il est commun. S'il y a des employés, il y a du volume d'activité. Ça plaît à l'entrepreneur, ça plaît à la collectivité, ça plaît aux partenaires sociaux. On est tous d'accord là-dessus. Plus il y a d'emplois, plus tout le monde se porte.
Voilà, c'est vraiment une des clés hein, d'une société, pas seulement d'une économie, mais d'une société. Nayawateu, on l'a bien compris, il fallait gérer l'urgence et faire en sorte que l'emploi salarié ne s'effondre pas plus que ce qui s'est déjà effondré. Donc ce sont des dispositifs d'aide de maintien à l'emploi. Est-ce que le gouvernement, avec l'État, et on sait que c'est dans le cadre du plan de reconstruction, il y a de nombreux sujets abordés, travaille cette fois-ci au fait de pouvoir avoir des mesures pour favoriser le retour à l'emploi une fois que l'économie va retrouver un petit peu de souffle?
Oui, c'est essentiel. Et puis on a besoin, malgré la situation compliquée qu'on rencontre depuis un petit moment maintenant, de se donner des perspectives. On a de véritables forces vives en Nouvelle-Calédonie au travers de nos chefs d'entreprise, au travers de nos salariés. C'est autant de valeur ajoutée qu'aujourd'hui, on a besoin de maintenir, mais surtout de faire évoluer. Et effectivement, cette période qui est compliquée, elle nécessite pour chacun de se reposer aussi peut-être des questions un peu existentielles, mais de redonner du sens aux choses. Et il faut absolument qu'on puisse capitaliser là-dessus. Le travail qu'on engage avec le partenaire qui est celui de l'État va au-delà de l'accompagnement financier. Alors certes, aujourd'hui, c'est essentiel et c'est vital. Comme je disais tout à l'heure, 24 milliards injectés entre les différents PGE, les avances de trésorerie, les aides à la reconstruction. C'est nécessaire parce que sinon, on ramerait à contre-courant et finalement, on perdrait tout le monde. Ces aides-là, c'est cet accompagnement financier, ce soutien, il est nécessaire pour justement pouvoir aussi se donner la capacité à côté de pouvoir refondre et revoir tout notre modèle économique. Alors je dis pas qu'il faut faire table rase des choses, mais en tout cas de revoir aujourd'hui nos filières, de revoir nos préoccupations, de revoir nos modèles, c'est important. On voit aussi émerger des initiatives entrepreneuriales qui se font à plus petite échelle, c'est aussi important de pouvoir les soutenir. C'est en ça où sur des dispositifs et les accompagnements, on a aussi besoin d'avoir, au-delà de nous, de nos directions qui sont, des directions qui soient prêtes à pouvoir répondre à l'ensemble des préoccupations des chefs d'entreprise, mais c'est aussi tout le tissu qu'il y a autour, avec les organisations syndicales, les organisations patronales, donc au travers du Conseil du dialogue social notamment, où on va engager là le calendrier 2026. On le voit sur les thématiques, on est beaucoup plus dans le concret. Donc on a tout intérêt à avoir ce travail. Là et l'État nous accompagne dans cette démarche.
Un mot peut-être sur le dialogue social que vous avez évoqué l'un et l'autre, qui fonctionne globalement dans cette période de crise. On a vu quand même qu'il y a des petits ajustements nécessaires. On a vu avec le mouvement de Lussoin, Claude Jour, qui demande notamment la réactivation du Conseil du dialogue social pour peut-être que ce soit une instance un peu plus fournie. Julien Barras, vous pensez aujourd'hui que dans cette période de crise, le dialogue social a vraiment bien fonctionné? Chacun a joué son rôle de manière positive et objective?
Oui. Vraiment, on peut tous se féliciter là, du travail qui a été fait de part et d'autre. Les partenaires sociaux, et tout comme les syndicats patronaux, ont fait des concessions importantes pour que tout avance dans le sens collectif. Beaucoup d'actions ont été menées, beaucoup ont franchi des lignes orange ou rouge, pour dans un but collectif. pour pas que tout s'effondre et pour commencer cette réforme, effectivement, et en tout cas accompagner les politiques dans leurs décisions qui sont lourdes et qui sont compliquées. J'ai entendu les remarques et effectivement, la baisse du coût du travail, c'est un axe important à travailler. C'est ça qui va redonner de la compétitivité aux entreprises calédoniennes. Et c'est pour ça qu'on accueille aussi, nous, tous ces dispositifs puissants qui ont été annoncés récemment, qui nous semblent aussi efficaces, comme un grand soulagement. Maintenant, effectivement, il faut qu'ils se mettent en place en cours de cette année et les suivantes. Et ça va demander des arbitrages importants
à faire. Mais il y a déjà des mesures contenues dans le budget qui va être étudié prochainement, Naya Ouattéou.
Oui, bah déjà sur la partie budget. Alors peut-être très rapidement sur le Conseil du dialogue social, parce que ça va être mon premier exercice. Donc j'ai commencé à rencontrer à la fois les différents représentants. Je rejoins complètement Julien sur ce qui m'a été remonté, c'est-à-dire que cette période-là, aussi difficile soit-elle, elle a permis à chacune des entités d'entamer des discussions qu'elle n'aurait jamais pensé pouvoir engager auparavant.
Finalement, sur l'essentiel.
Sur l'essentiel et sur l'idée, encore une fois, sur le sens qu'on donne aux choses et à la réactivité qu'il est nécessaire d'avoir. Et on a vu chacun bouger un petit peu ses lignes. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend des différents partenaires. On l'attend sur le monde économique. On l'attend aussi sur le monde politique. Ça fait partie des enjeux aussi. Donc, saluer ce travail qui a été fait. On est en train de préparer la séquence avec l'agenda partagé pour l'année 2026. Et vraiment, je sens cette volonté de pouvoir rester sur cette bonne entente qui a été prise. Alors bien sûr, chacun reste dans son périmètre, dans les objectifs qui sont les leurs, mais de voir qu'on est encore capable de se réunir, de se mettre autour de la table, de pouvoir se projeter et de prendre des décisions et de les assumer ensemble, ça me semble être encore plus encourageant sur le reste. Pour ce qui est des mesures, effectivement, alors il y a cette prolongation que j'appelle bien évidemment mon vœu et de voir qu'aujourd'hui c'est un dispositif qui satisfait en tout cas à l'urgence remontée par les entreprises. C'est important d'avoir ce relais là pour que les conseillers, parce qu'encore une fois c'est un amendement qui va être soumis au vote des élus du Congrès, pour que les conseillers puissent délibérer en toute connaissance, fait partie des mesures qui vont avoir un impact très concret. On est aussi en train de travailler la dimension rétroactive parce que, encore une fois, le temps législatif n'est pas forcément le même, mais l'idée, c'est en tout cas d'avoir ce signal-là qui soit donné. Et puis, il y a tout ce travail qui est fait, évidemment, sur la partie budget, de pouvoir maintenir pour la Nouvelle-Calédonie une capacité d'investissement qui est essentielle. On est aujourd'hui sur un investissement de l'ordre de 9 milliards pour le gouvernement, mais c'est aussi un travail qui est engagé parce que je sais aussi d'où je viens et que c'est une collectivité que je connais bien avec la province sud qui, elle, engage un investissement de l'ordre de 12 milliards. C'est aussi ce rapport entre le public et le privé et ce lien très ténu mais essentiel qui fait que maintenir une économie qui soit accessible, équitable pour tout le monde, c'est comment on joue entre ces deux piliers-là.
Voilà, et vous avez bien fait de rappeler, puisqu'on a parlé de l'aide au maintien de l'emploi, mais que notamment la province sud, mais aussi la province nord, ont pris des dispositifs d'accompagnement aussi hein, sur l'emploi, qui viennent en complément finalement de ce qu'ont fait le gouvernement et l'État. Oui. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans cette... Vous vouliez rajouter quelque chose, Julien Barras ? Non, merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans cette émission pour faire un peu le point sur l'emploi salarié et les aides nécessaires pour maintenir un emploi salarié à son taux le plus haut possible. On a bien compris que c'était important pour l'avenir de la société calédonienne. Merci à tous les deux.